Donc, ce que je me propose de faire, et en allant pas trop, en n'y prenant pas trop de temps, c'est une vision un peu synthétique sur la politique française des infrastructures. En remontant 10 ans en arrière, on pourrait faire 2 siècles ou 3 siècles d'histoire sur des sujets pareils, mais ne mettant pas quand même un peu un point de vue européen pour ne pas rester uniquement dans un cadre trop étroit. Donc, on pourrait faire tout un 2 jours sur un sujet pareil. Je vais donc me contenter de commenter un peu les événements marquants qui se sont déroulés sur ce thème-là en France depuis 10 ans, pour identifier quand même les outils, les enjeux, les acteurs, les modes de décision, et éclairer finalement la phase actuelle, qui est une phase d'indétermination, puisque, je vous dis tout de suite la conclusion, nous sommes théoriquement dans la période de confection d'un nouveau schéma national des infrastructures de transport, qui devrait remplacer le précédent, qui était définitif, mais qui était de 2003, donc le définitif a duré 6 ans, et voilà. Donc, remontons, si vous le voulez bien, à 2001, c'était les schémas de services collectifs du gouvernement Jospin. Il y en avait 9, je crois, énergie, enseignement supérieur, télécom, etc., et 2 pour les transports, 1 pour les voyageurs, 1 pour les marchandises. Et à ma connaissance, seuls les 2 schémas transports sont allés jusqu'au bout de l'élaboration, c'est-à-dire qu'ils ont eu les décrets qui leur a donné une réalité juridique. Mais très vite, après l'alternance de 2002, le nouveau Premier ministre, M. Raffarin, a dit ne pas vouloir hériter du passé, et il a confié un audit à l'Inspection Générale des Finances et au Conseil Général des Ponts et Chaussées, qui existait encore à l'époque, pour évaluer tous les projets qui étaient dans les tiroirs, en mesurer le degré d'avancement, mais surtout en apprécier la pertinence économique. Simultanément, il a demandé à la DATAR de faire une réflexion de caractère plus prospectif et plus territorial, bien sûr, sur la France en Europe, ce qui est intéressant. Le document est sorti à la documentation française. Il ne s'agissait pas de voir le territoire français isolément, et c'était d'une démarche interministérielle. D'autres rapports parlementaires ont été lancés, confiés à des députés ou des sénateurs sur les différents modes de transport. Il y a eu une journée entière de débat à l'Assemblée nationale, une journée entière de débat au Sénat. Je ne pense pas qu'il y en ait eu depuis. Donc il y a eu un débat sur les transports digne de ce nom tous les 10 ans environ. Cela étant, donc, toute cette procédure-là, toute cette démarche intéressante aboutit au CIAT de décembre 2003, qui a abouti à un schéma, non pas un schéma d'ailleurs, disons à une liste de projets prioritaires qui devait fixer les orientations de la politique d'infrastructure de la France à l'échelon de 25 ou 30 ans. Cela étant, les choses sont fragiles, puisque dès 2005 et dans son discours de politique générale à l'Assemblée, le nouveau Premier ministre, M. de Villepin, a annulé une des dispositions importantes du dispositif du système Raffarin, à savoir la non-privatisation des concessions d'autoroutes, qui devait alimenter, pour une bonne part, l'AFITF, la nouvelle agence chargée de financer les infrastructures. Et puis, en 2007, avec le président Sarkozy et le gouvernement... quel est le nom du Premier ministre ? Fillon, voilà. Le vin de chez Colas, c'est délicieux. Voilà. Mais on a un hyper-président, c'est connu. Donc, le Grenelle de l'environnement, les lois Grenelle 1, 2, 3 et le nouveau schéma en chantier. Et puis, je vous parlerai quand même un peu d'un petit lobby, entre guillemets, qui s'appelle TDIE, auquel certains anciens auditeurs de l'IEDAT contribuent, notamment Philippe Duron, qui fut président de région Basse-Normandie et aussi président de la commission d'aménagement du territoire à l'Assemblée, qui en est un des 2 coprésidents, et qui a joué un rôle assez important lors du CIAT de 2003 dans sa préparation et qui s'efforce de jouer un rôle analogue aujourd'hui. Et puis je parlerai aussi des projets européens. Donc les schémas de services collectifs, donc c'est suite à la loi Pasqua d'orientation de l'aménagement du territoire de 1995 n'a pas d'ailleurs été annulée par la loi Voynet, elle l'a gardé son cadre, elle l'a amendé, mais prévoyait un grand schéma national d'aménagement du territoire qui n'a jamais existé. Il devait être voté au Parlement, et donc la loi Pasqua n'a pas été appliquée jusqu'au bout. Donc l'idée a été pu substituer, non pas un schéma national, mais des schémas sectoriels, en quelque sorte, de services collectifs. Il y avait un certain nombre d'innovations méthodologiques intéressantes, même s'ils n'ont pas été poussés à bout, partir de la demande et non pas partir de l'offre. Donc, quels sont les services pour répondre aux besoins de l'économie et de la population? Une vision multimodale et non pas juxtaposer le schéma directeur des routes, des chemins de fer, des aéroports comme auparavant, avec parfois des recouvrements, voire des concurrences, avec bien sûr, puisque c'était Madame Voynet, une teinture verte sur tout ça, donc au mieux utiliser le mieux possible les infrastructures existantes pour limiter les créations nouvelles, et donc mettre l'environnement déjà bien avant Grenelle comme une priorité. Pour schématiser, en matière de fret, favoriser le chemin de fer, en matière de transports urbains, favoriser les transports collectifs. Cela étant, c'était aussi desservir l'ensemble du territoire et s'ouvrir sur l'Europe. Ce que déjà Pasqua, bien qu'il ait fait voter non au référendum de Maastricht, vous vous rappelez, veillait. C'est-à-dire que le schéma de Pasqua n'était pas franco-français, il était très ouvert, il privilégiait, comme ça se fait toujours, les liaisons avec les pays européens voisins. Et il devait y avoir une cohérence entre des schémas régionaux et un schéma national, et avec les contrats de plan pour en matérialiser la cohérence. Cela étant, ce travail intéressant avait des défauts, notamment l'absence de cartes. Alors c'était une ruse délibérée, on ne faisait pas de cartes, parce que si on faisait des cartes, si on avait fait des cartes, les élus qui sont un peu bêtes se seraient focalisés uniquement sur le choix du tracé, pas chez moi, not in my backyard, et n'auraient pas vu l'essentiel. Il n'y avait pas beaucoup de financement, ni même de chiffrage, et il n'y avait pas de priorité. Donc c'était quand même des schémas où on prévoyait un peu tout partout, ça ne fâchait personne, mais sans priorité, on n'a pas guère de politique. Donc il y a eu une avancée réelle, mais qui avait trouvé ses limites. De toute façon, ces schémas n'ont jamais servi, puisque, comme je le disais, l'alternance de 2002 se traduit par une commande d'audit du nouveau Premier ministre, qui fait le point sur une centaine de projets en quelques mois. Donc ils ont travaillé vraiment de façon remarquable et très intense, disons en gros en appliquant les méthodes disponibles, celles du calcul de rentabilité socio-économique, relativement bien codifiée, qui se traduit par exemple par un TRI, un taux de rendement interne, qui est l'indicatif synthétique qui est censé refléter l'opportunité économique d'un projet d'infrastructure. Cela étant, quand ces deux organismes respectables ont rendu leur rapport, l'accueil a été très mauvais. La presse et l'opinion y ont vu une vision purement technocratique, qui ne retenait finalement que les projets routiers, et qui faisait comme recommandation au gouvernement, premièrement, ne faites pas le canal Seine-Nord, deuxièmement, ne faites pas l'autoroute, le tunnel ferroviaire Lyon-Turin, ce serait un gaspillage d'argent public avec une rentabilité très faible. Les questions d'environnement, le poids des considérations environnementales était relativement faible finalement dans ces recommandations. De fait, les ministres ont remercié beaucoup et ont dit exactement le contraire de ces recommandations très très vite. Donc il y a eu, et cette question politique ou technico-politique reste posée. Qu'en est-il aujourd'hui du calcul économique et de ses méthodes dans les prises de décision en matière d'infrastructure? C'est une vraie question. Et d'ailleurs, le Conseil général des ponts a lancé, pour le coup, un chantier de révision, de critique, et son vice-président, Claude Martinan, a été le premier à tirer à boulet rouge sur les méthodes telles qu'elles existent et la nécessité d'en inventer de nouvelles. Mais je ne crois pas qu'on soit encore arrivé à cet objectif. Le document de prospective de la DATAR a été publié à la documentation française. J'y avais pour ma part un peu contribué en élaborant quelques éléments, notamment de critères de comparaison entre la France et ses voisins. Et même un graphique très très simpliste comme celui-ci, qui met en abscisse la population et en ordonnée la densité de population et en ordonnée la densité de route en kilomètre par kilomètre carré, avait permis déjà de décrisper beaucoup les débats, car certains disaient la France menace d'être congestionnée, il ne faut surtout pas arrêter de faire des infrastructures, etc. Ce qui est sans doute vrai, mais on voit que la France est plutôt mieux dotée que la moyenne européenne, considérant son territoire. Alors, une moyenne nationale appliquée à un territoire aussi hétérogène que le territoire français, c'est un peu idiot, parce qu'entre les régions très, très peu denses du Massif central, par exemple, et très denses de la région parisienne, une moyenne ne veut pas dire grand-chose. Mais enfin, la France n'apparaît pas éminemment sous-équipée. Ce serait plutôt l'Allemagne ou le Royaume-Uni, par exemple, qui, toutes choses égales par ailleurs, semblent en dessous de la moyenne. Donc, ce document de la data était intéressant parce qu'il était animé par une sorte de vision géographique et non pas seulement projet par projet, comme on peut le reprocher à l'analyse du Conseil général des ponts. Et donc, la notion de corridor, d'axe de circulation, de cohérence territoriale et aussi d'efficacité sociale et territoriale permettait de tenir un discours plus construit, en tout cas plus séduisant. Puisque la réception était bonne, je me rappelle que l'Express avait fait un cahier de 10 pages qui n'était pas de la publicité, avec des belles cartes qui illustraient ce travail. Déjà, quand même, on ne fait pas que de la géographie, et ça se retrouvera à l'Assemblée au Sénat, on parle de financement et de tarification. Donc les élus ne se soucient pas seulement que leur région soit enclavée et leur village non traversé, ils ont déjà ces questions clés à l'esprit. Et donc ce document est une assez bonne réussite. Et donc le débat parlementaire, je viens d'en parler, et d'ores et déjà deux conceptions apparaissent, me semble-t-il, y compris dans la majorité parlementaire et présidentielle de l'époque, qui est à peu près celle qui est encore aujourd'hui aux affaires, une orientation gestionnaire et puis libérale, qui veut faire payer les utilisateurs, etc., et concentrer les investissements sur les segments les plus rentables, et puis une orientation que j'ai qualifiée d'aménagiste et plus sensible à l'environnement, et qui se soucie notamment de pérenniser le financement public. C'était donc l'arbitrage que Raffarin, à l'époque, avait rendu, qui avait refusé de privatiser les concessions d'autoroutes pour financer les nouvelles infrastructures, y compris non routières. Donc il y avait un transfert, la rente autoroutière, dès lors que les concessions... Les investissements arrivaient au bout des emprunts et de l'amortissement. Il y avait là une manne quasiment permanente qui aurait servi, y compris, à financer des canaux ou des trains et pas seulement de nouvelles routes. Mais comme je l'ai dit, cette décision a été annulée en 2005, mettant la FITF d'ailleurs en grande difficulté. Car si on a privatisé les concessions d'autoroutes pour, je crois, me rappeler environ 14 milliards d'euros, 4 ont été donnés à la FITF et les 10 autres sont tombés dans le budget général. Alors, simultanément, une petite association d'origine parlementaire et co-présidée par un sénateur, un député, un de gauche, un de droite, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs, mais qui se voulait politiquement pluriel, s'était créée et s'était efforcée d'alimenter le débat avec un certain nombre d'informations, et notamment en faisant une enquête auprès de tous les conseils régionaux, un recensement des projets d'infrastructure. Et puis après, ces projets avaient été rassemblés, chiffrés, cartographiés et ordonnés. Et ce document bien présenté avait eu lui aussi un succès considérable. Tous les parlementaires l'avaient reçu, les journaux l'avaient repris, et alors que le ministère de l'équipement de l'époque n'avait pas fourni des éléments aussi clairs, aussi pédagogiques de son côté. Il en était assez fâché d'ailleurs. Et donc, il y a eu une sorte de lobbying pour une politique raisonnable, équilibrée, rationnelle, des investissements et de pérennisation de la ressource. Donc, cette petite association, mais dont beaucoup de parlementaires, mais aussi de régions, de départements, de grandes entreprises du transport ou gestionnaires d'infrastructures sont membres, plaidaient pour que cette agence de financement des infrastructures soit stable. Voilà. Et en ce moment, lors des élections présidentielles, cette association est remontée en activité en demandant aux différents candidats aux élections présidentielles de donner un avis sur un certain nombre de questions. Et en ce moment même, cette enquête sur les projets des régions a été réactualisée pour alimenter de nouveau le débat. Et donc le SIAT de 2003 donc conclut toute cette phase de débat qui a quand même duré 2 ans. Il y a eu une vraie réflexion de fond sur qu'est-ce que doivent être les infrastructures de l'avenir et comment les financer, y compris avec les débats dans le gouvernement et des fuites organisées dans les journaux par telle ou telle fraction, je dirais, qui était pour ou contre la privatisation des autoroutes. On a là un expert qui pourra préciser, confirmer ou corriger ce que je raconte. Et alors, cela étant des critiques au résultat, une liste de projets, et non pas un réseau, il n'y a pas de cohérence, en tout cas affichée, qui d'ailleurs finalement est plus proche des propositions de la data que des recommandations du Conseil général des ponts et de l'inspection des finances, puisque des projets non prioritaires pour les ingénieurs et les financiers et notamment Seine-Nord et Lyon-Turin, sont au contraire repris parmi les priorités du SIAP, et d'ailleurs Seine-Nord va bientôt franchir, je crois, le cap du non-retour, et devenir un vrai projet, et beaucoup de projets plutôt ferroviaires, maritimes, et pas entièrement routiers, comme le Conseil général le préconisait. Donc, le financement par l'AFITF, j'en ai déjà parlé, mais cela étant, quelle était la force de prescription de cette liste, quels étaient les financements en regard des projets, il était question d'une loi d'orientation pour consolider cette décision interministérielle, elle n'a jamais existé. Par contre, il y avait la mise en place d'un dispositif de suivi qui a fait son travail et qui périodiquement a diffusé des informations qui faisaient l'état de l'exécution des différents projets. Je vous en donnerai quelques exemples. Et comme je le disais, en 2005, le nouveau gouvernement de M. de Villepin a annulé un des éléments clés, à savoir la rente autoroutière. Il était privatisé. On a non pas mangé, mais vendu la poule aux œufs d'or. Donc voilà quelques-unes des décisions du SIAT. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais en matière autoroutière, donc compléter l'autoroute Paris-Bordeaux-Espagne, là qui ne va pas assez loin, insister plutôt sur les liaisons est-ouest pour couper la France en deux ou trois diagonales ou horizontales manquantes et homogénéiser le territoire, alors même que la technique de l'adossement qui consistait à donner une concession nouvelle à une ancienne société déjà concessionnaire, quitte à rallonger un peu sa concession, de sorte qu'il y avait une sorte de subvention croisée entre la vieille concession rentable vers la nouvelle concession non rentable, est désormais interdite du fait du règlement européen. Donc, pour compléter le territoire, ce procédé n'est plus possible. En matière ferroviaire, il y avait l'extension du réseau TGV, il y avait le Lyon-Turin, il y avait aussi le canal Seine-Nord, comme je l'ai dit, et des itinéraires de fret ferroviaire, on y est encore. Et finalement, ces propositions recoupent assez largement celles que la petite association TDIE, dont je vous ai dit la façon de travailler, avait formulée. Mais encore une fois, quel ordre de priorité, en fonction des financements, ça n'était pas dit. Et voilà, par exemple, un échantillon des documents de suivi, donc 2 ans plus tard, en 14 octobre 2005, et sur le site de la data, j'ai trouvé ces documents qui montraient comment, dossier par dossier, le compte-rendu, je dirais, d'exécution était diffusé au public. Voilà un autre exemple de dossier pour le volet ferroviaire, maritime, fluvial et aéroportuaire. Alors, cela étant, la France n'est pas isolée en Europe, on s'en fout, et donc il existe des réseaux transeuropéens de transport, Trans-European Networks en anglais, qui ont établi là aussi un schéma directeur. L'idée naît, je crois, au traité de Maastricht, avec la préoccupation de cohésion sociale et territoriale, et dans les schémas de transport européens, on privilégie préférence les chaînons manquants. Il y a un réseau, il y a un trou quelque part et l'Europe vient le combler. Et c'est souvent un trou transfrontalier. Chaque État ayant une tendance à concevoir son réseau dans un cadre national, c'est les liaisons entre deux réseaux nationaux adjacents qui sont faibles et qui reçoivent de ce fait un soutien européen spécifique, avec en outre une préférence déjà, bien avant Grenelle, il n'y a pas eu de Grenelle européen d'ailleurs, aux solutions non routières quand elles sont pertinentes. Donc c'est des projets européens qui se combinent avec les projets européens. Tout avait commencé à Essen en 94, où avait été décidé lors d'un sommet la création, l'identification de 13 projets prioritaires, dont en fait la réalisation était extrêmement lente et très incomplète. Et donc il y a eu ensuite la volonté de relancer ce procédé en nommant une commission confiée à un ancien commissaire très puissant, Karel van Miert, et en augmentant les contributions communautaires, et dans une grande liste de projets assez abondante pour ne fâcher personne, je donne mon avis personnel, on avait identifié la liste des projets capables de démarrer plus vite, dite Quick Start. Alors c'est un travail moins, entre guillemets, scientifique, hein. On nomme de grands experts nationaux qui chacun portent leurs projets, il n'y a pas de calcul économique sophistiqué, il y a, disons, du savoir-faire, du feeling, tout ce que vous voudrez, ou du doigt mouillé. Et la France obtient politiquement le soutien européen du Seine-Nord qui devient Seine-Escaut et de Lyon-Turin. Donc elle verrouille un peu la décision en lui donnant une dimension européenne et en recueillant de ce fait aussi une contribution européenne au financement des projets. Alors voilà la liste des projets de Essen, les 13, je ne détaille pas. Voilà la carte des projets de Quick Start. Cela étant, et bien sûr c'est crucial, le budget européen pour les infrastructures est totalement dérisoire, hein, puisque je crois qu'il est de 7 ou 8 milliards d'euros d'ici 2013, alors qu'on estime qu'à l'horizon 2020, alors ce n'est pas 2013, les besoins de réalisation de tous ces projets seraient de 600 milliards d'euros. Donc on a 8% de fonds européens et 92% à trouver par ailleurs. Donc l'Europe a une politique ambitieuse, mais ne s'en est pas donné les moyens, parce que les ministres des Finances n'ont pas voulu, lors de la discussion du budget européen, que l'Europe dispose d'un budget significatif. Mais enfin, il peut y avoir un effet de levier ou un effet déclencheur qui n'est quand même pas négligeable. Alors, le Grenelle de l'environnement, on l'a tous vécu, donc je n'ai pas besoin de vous le raconter ni de l'expliquer. Tous les grands candidats aux élections présidentielles avaient d'ailleurs à peu près signé la charte de Nicolas Hulot, et tous avaient prévu de faire un grand ministère réunissant en gros environnement et transport, que ce soit Mme Royal, M. Sarkozy ou les autres candidats. Et donc cette démarche de Grenelle assez originale, donc une sorte de travail extra-parlementaire avec 5 collèges qui, après tout, ça aurait pu être le travail du Parlement. Il est fait pour ça. Certains parlementaires n'étaient pas ravis, d'ailleurs. Mais enfin, ensuite, la main revient au Parlement pour valider par une loi d'orientation, puis par des lois de financement, Grenelle 1, 2, 3, ces orientations que le gouvernement s'était engagé à mettre en œuvre dès lors qu'elles faisaient l'objet d'une décision majoritaire de ces 5 collèges. Finalement, la discussion s'est bien passée plus au fond et avec des compréhensions entre des univers sociaux qui ne se connaissaient pas beaucoup jusqu'alors. Le monde syndical, le monde environnementaliste, je dirais, ne se parlait pas beaucoup. Et Grenelle a joué un rôle important dans leur rapprochement. Et donc la loi Grenelle 1 consacre un chapitre entier au transport, juste après celui sur l'urbanisme. Donc il y a évidemment un lien territoire-transport, localisation et flux, ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Avec un article 9 intitulé « Développement durable », avec des objectifs que vous avez tous lus souvent, la diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, et puis l'arrêt finalement du grand développement du réseau autoroutier. Il faut dire qu'à peu près tout est construit, hormis, mais ça permet de faire beaucoup de choses, quand il s'agit de questions de sécurité. Or, comme une autoroute, grosso modo, c'est 4 fois moins d'accidents qu'une route nationale, l'argument de sécurité vaudra pour toute autoroute qu'on voudra construire à l'avenir, mais enfin, a priori, il y a quand même, sinon un stop, du moins un fort frein sur le développement des autoroutes. En matière de fret, priorité au mode non routier, voie d'eau, fer, voie maritime, cabotage, etc., avec l'identification, et je crois que c'est bien, et ça n'était pas dans l'audit du Conseil général des comptes de l'inspection des finances de 2003 ou 2002, le renforcement de 2 grands corridors ferroviaires nord-sud, donnant sinon l'exclusivité, du moins une bonne qualité de circulation aux trains de fret, avec cette ambition d'augmenter de 25% d'ici à 2012 la part du fret non routier. 2012, c'est dans 2 ans, j'ai bien peur que cet objectif ne soit pas atteint. Avec des autoroutes ferroviaires, qui n'est pas du tout la même chose, hein, c'est une sorte de transport multimodal, qui permet de mettre facilement un camion ou une remorque routière sur le train et de le retirer à l'autre bout aisément. La création d'OFP, opérateurs ferroviaires de proximité, c'est-à-dire un peu sur le modèle américain dit des short lines, créer des sociétés ferroviaires locales capables, mieux que le mastodonte SNCF, de traiter commercialement, avec un peu de finesse, la collecte, la distribution des wagons, de regrouper des clients proches, etc., pour faire un peu de massification et apporter par des petites rivières un fret qui manque aux grands fleuves, des petits ruisseaux aux grandes rivières de la SNCF ou des autres opérateurs ferroviaires, puisque maintenant les réseaux sont ouverts à de nouveaux entrants. Voilà pour le fret. Il faut aussi renforcer les ports français et notamment leur desserte terrestre. On sait bien que la question des ports, c'est pas seulement du maritime et du portuaire, c'est le rapport avec l'Interland. Développer les autoroutes de la mer, finalement, c'est un peu comme les autoroutes ferroviaires, c'est-à-dire c'est des bateaux sur lesquels on peut très facilement faire passer une remorque routière ou un ensemble routier, réaliser cette norme, ne pas oublier que les gains d'environnement les plus faciles et les plus importants, c'est d'abord dans le mode routier lui-même qu'il faut les trouver, et non pas dans un transfert modal, et puis instaurer, pour pallier peut-être la suppression des, ou plutôt la privatisation des péages, instaurer donc une taxe kilométrique sur le réseau non concédé, puisque là où il y a concession, il y a déjà un péage, pour financer de nouvelles infrastructures. C'est un peu le modèle autrichien ou allemand du LKW Maut, qui lui-même s'inspirait du modèle suisse de la RPLP, qui avait été novateur, et progressivement, tous les pays d'Europe, enfin, l'Angleterre en parle, instaure des modes de péage sur l'ensemble du réseau. On commence par les poids lourds, un jour peut-être les automobiles, et avec des techniques modernes de GPS qui permettent des méthodes de calcul et de perception qui ne sont pas celles traditionnelles du passage dans un guichet. On n'oublie pas les voyageurs, bien sûr, pour lesquels aussi il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans une vision, encore une fois, multimodale, avec l'idée de pertinence des modes de transport. Tout n'est pas bon partout, et le fer est bon ici, mais n'est pas bon ailleurs. La route garde évidemment un rôle considérable. Et on relie le monde aérien et le TGV. On ralentit la création de nouveaux aéroports. On fait un effort pour améliorer considérablement l'efficacité énergétique du transport aérien. Et on l'inclut dans le marché des quotas. On maille le territoire national, peut-être pas aussi vite que les Espagnols, mais on fait un gros effort de développement des lignes à grande vitesse. Notamment, on fait Perpignan-Figueras, la branche Est du TGV Rhin-Rhône, plus 2000 km de lignes d'ici 2020 et 2500 ensuite. On n'oublie pas les zones urbaines et périurbaines, toujours pour y réduire les nuisances, les plans de développement de déplacement urbain, les plans de déplacement d'entreprise, et puis l'autopartage, le covoiturage, les modes doux, etc. Avec aussi les négociations européennes pour baisser le taux d'émission moyen des nouveaux véhicules automobiles mis en circulation. Vous savez, le débat des Allemands qui voulaient 140 et les Français 120. Et l'aide au transport collectif en site propre, le désenclavement des quartiers. Bref, vous savez lire comme moi, toute une panoplie avec un chapitre particulier pour la région Île-de-France. Mais on n'avait pas encore inventé le Grand Paris à l'époque. Et donc, depuis, et on en reparlera demain, le secrétaire d'État, M. Blanc, et ses récentes propositions, plus le projet, les 10 projets d'architectes là, qui viennent de sortir l'année passée, sont venus un peu enrichir la discussion, je dirais. Mais dans tous les cas, le transport joue un rôle considérable dans tous ces projets. Je ne prends pas le temps d'y revenir. Mettre à jour la LOTI de 82, donc la loi d'orientation des transports intérieurs du ministre Fitterman, est encore le cadre doctrinal de référence des politiques de transport en France. Donc on va la grenelliser, mais on ne la met pas à la poubelle. Et on prévoit un schéma national des infrastructures de transport qui donc va remettre en chantier et annuler donc les résultats du CIAT de 2003. Alors donc, est-on vers un nouveau schéma? Comment y va-t-on plus exactement? Quand on examine les méthodes actuelles d'évaluation des projets d'infrastructure, et même en prenant les valeurs du rapport boiteux du nom de président de la commission du plan qui y a travaillé, l'ancien président d'EDF et économiste extrêmement respecté, qui a établi des valeurs de référence raisonnables sur le coût social d'une tonne de carbone ou de tel ou tel temps passé dans la congestion et d'autres nuisances, d'autres externalités des transports négatives. Quand on fait le bilan coût-avantage d'un projet routier, par exemple, plus de 90% et souvent plus de 95% tient au gain de temps des usagers. Et donc, Kyoto, environnement, gaz carbonique, etc., c'est peanuts. Dans le calcul économique, même en donnant une valeur économique à la tonne de carbone, tout se joue encore aujourd'hui si on applique la logique de ce raisonnement et de cet outil d'aide à la décision tient, comme auparavant, au gain de temps des usagers. Me corrige, mais... Donc on heurte, à tort ou à raison, l'opinion qui attend autre chose, avec y compris ses contradictions. Le président Carter ce matin a bien dit que les gens ils veulent de l'écologie, mais autant de mobilité qu'auparavant. Bon, donc l'opinion publique n'est pas non plus tout à fait limpide. Mais comment intégrer davantage ces nouvelles préoccupations sans jeter le bébé et l'eau du bain et abandonner toute espèce de calcul économique et de rationalité dans l'allocation des moyens qui sont évidemment rares et limités. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les ministres prennent des décisions qui sont exactement contraires aux recommandations de leurs experts, ce qui est quand même un peu, pose une vraie question. Donc, comment décider, selon quels critères, etc. Alors, TDIE, de son côté, a une démarche moins technocratique, je dirais. Elle a fait une enquête auprès des conseils régionaux. Et ce qui était intéressant dans les résultats, c'est que finalement, ça n'était pas délirant. Et que quand on demande aux régions « qu'est-ce que vous avez en projet ?», elles n'ont pas envoyé des listes interminables qui couvraient leur territoire d'infrastructures pour le 23e siècle. Finalement, elles avaient fait une sorte d'autorégulation ou d'autosélection qui fait que les projets transmis, ils étaient ceux que tout le monde s'accorde à considérer comme pertinents et plutôt prioritaires s'il faut faire quelque chose. Et quand on faisait les sommations, on n'arrivait pas non plus à des sommes délirantes. Si on se comparait par exemple à la part de leur PIB que les Espagnols viennent de consacrer aux infrastructures de transport depuis 20 ans, on était largement en dessous. Donc si l'Espagne a pu les payer, la France devrait pouvoir éventuellement y arriver. Et si on a une crise de la méthode et des indicateurs, quand on met autour d'une table des gens raisonnables et assez experts, ils ont sinon une science, du moins un savoir-faire qui leur permettait de dire, bon, entre gens sérieux, toi t'es économiste à RFF, mais t'es là officieusement, toi t'es haut fonctionnaire au ministère, mais tu viens un tutu personné, moi je suis gestionnaire d'infrastructure, et moi je suis, etc. Et on se met d'accord sur un schéma qui n'est pas trop bête, et qui n'est pas... Donc voilà, on est dans une sorte de situation, enfin c'est ma façon de lire les choses assez étrange, où on a à la fois une doctrine scientifique qui est remise en cause, et en même temps un savoir-faire collectif qui, heureusement, n'est pas si défaillant. Voilà. Alors ça, c'est par exemple les propositions que faisait TDIE pour le nouveau schéma. Donc on voit qu'il y a Seine-Nord, on voit qu'il y a un Saône-Moselle en pointillé qui s'esquisse. Ben, j'ai l'impression que le gouvernement est en train de dire maintenant à peu près la même chose. On voit qu'en matière ferroviaire, eh bien, on a deux axes ferroviaires à priorité fret qui se dessinent, et puis quelques transversales en matière de fret, et avec une attention particulière à la desserte des ports maritimes. On voit qu'en termes de routes et d'autoroutes, l'essentiel est construit, et il y a surtout quelques déviations, il y a plutôt des déviations d'agglomération qui restent effectivement à construire, quitte à ce que, comme par exemple à Bordeaux, ça puisse poser des problèmes et de procédure et d'acceptabilité politique, puisque la procédure a été annulée, considérant que la démarche de débat public n'avait pas été respectée par le gouvernement de l'époque. Et en matière de TGV, bon, ben, on poursuit le développement du réseau, mais avec des axes qui ne vous surprennent pas beaucoup. Moi, je dis mon avis très simplement et à titre comme ça d'expert irresponsable. Je suis pas sûr que Poitiers-Limoges mérite vraiment une voie nouvelle à 300 à l'heure et que l'amélioration de la voie actuelle pour faire une bonne bretelle de raccordement à Poitiers me semblerait plus raisonnable, par exemple, mais d'autres experts auraient des avis plus fins sur d'autres éléments. On voit quand même des voies nouvelles comme un TGV direct par Amiens vers le tunnel sous la Manche qui redoublerait le TGV Paris-Lille, et puis un deuxième TGV Paris-Sud-Est, l'actuel approchant de la saturation et donc permettant une desserte différente par une partie du massif central. Voilà, donc, et je vais laisser le temps à la discussion. Par rapport à la démarche de choix, finalement, on constate que les choses ne se passent pas aussi simplement qu'une certaine théorie le voudrait. Du surant, il y a un projet, les experts font des études, ils classent les projets selon leur opportunité avec leurs outils de calcul, et puis ensuite les politiques tranchent, et puis on retient les mots. Normalement, on devrait retenir les projets les premiers classés dans le classement, et puis quand on n'a plus d'argent, on s'arrête, et puis on attendra l'année suivante, et puis on applique et on met en œuvre. De fait, les choses se déroulent bien autrement et dans des temps beaucoup plus longs, et on a des décisions qui sont remises en cause. Après tout, je crois que le canal Roi-Rhône a été solennellement annoncé par deux présidents de la République pour être finalement annulé, s'inédié, je dirais, et encore aujourd'hui. Donc c'est un processus dans le temps à acteurs multiples et sans doute de plus en plus multiples, si j'ose dire. Hein. Le temps n'est plus où, du temps du général de Gaulle, les Français, au nom de la modernité et de l'adhésion à un projet national de croissance, faisaient confiance et acceptaient finalement des nuisances, des nouvelles infrastructures qu'aujourd'hui les habitants de la France n'acceptent plus. Donc la société civile, les associations de toutes sortes sont parties prenantes. La procédure du grand débat, de débat public, d'ailleurs, a institutionnalisé ces confrontations d'idées et aussi de points de vue, mais aussi d'intérêt, je dirais. Je ne sais pas si la notion d'intérêt général surnage bien dans cette évolution. Donc, les expertises contradictoires, je pense qu'il faut aussi mieux dédommager les perdants à un projet, parce qu'un projet peut avoir un bilan global positif, mais spolier, pourquoi ne pas le dire comme ça, le propriétaire de telle ou telle maison qui serait soumise aux nuisances immédiates d'un projet de nouvel aéroport ou autoroute ou voie ferrée. Et si il faut dédommager les gens pour qu'ils ne soient pas volés et qu'ils acceptent les choses, je pense que ce serait justice à mon sens. Donc, ne négligeons pas le fait qu'une fois qu'un schéma est élaboré, beaucoup se joue dans sa mise en œuvre. Si sur le mur du bureau du ministre, un schéma couvre la France d'infrastructures, mais entre la première construite et la dernière, il y aura 30 ans d'écart, les effets de développement sur le territoire, de développement différencié sur le territoire, sont considérables. Une région aura de bénéficier pendant 30 ans d'un avantage comparatif pendant une autre. Donc, un schéma est une chose, l'ordre de réalisation de ce schéma en est une autre, et très important, peut-être même plus important. Je dirais que c'est la rareté qui structure, c'est une sorte de paradoxe. Quand une infrastructure est rare, elle ne dessert que quelques portions du territoire qui jouissent d'un avantage relatif. Quand le réseau devient puissant, plus il est puissant, plus il est neutre, puisqu'il il dessert également le territoire, il n'y a plus d'écart entre régions, et dès lors, et c'est une sorte de paradoxe formel, plus un réseau est puissant et plus les décisions de localisation, par exemple, se prendront en fonction d'autre chose. Rappelons-nous le temps de nos parents. Dans les années 60 ou 70, il n'y avait pas de téléphone en France. Et donc, on pouvait rester en région parisienne parce que là, le téléphone marchait à peu près pour les entreprises. Et si on allait en Bretagne, on pouvait passer sa journée à essayer d'avoir une liaison téléphonique. Aujourd'hui, aucune entreprise ne va se localiser ici ou là parce qu'elle a ou n'a pas le téléphone. Il y a le téléphone partout. Dès lors, on va se localiser pour la main-d'œuvre, pour les clients, pour les fournisseurs, pour autre chose. Le téléphone puissant n'est plus un facteur de différenciation du territoire. Voilà. Et donc, méfions-nous des décisions, elles ne sont jamais acquises. Par exemple, le CIAT de 2003 est déjà caduc et la décision de non-privatisation des autoroutes n'a pas duré 2 ans. Donc, ça fait à peu près 3 démarches stratégiques en 8 ans, si on compte les schémas de services collectifs, le CIAT et aujourd'hui le nouveau schéma national d'infrastructure des territoires. On fait de la prospective sur 50 ans tous les 3 ans. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Heureusement quand même que les projets ne varient pas d'un schéma au suivant et qu'il y a des continuités économiques et spatiales qui donnent une certaine cohérence à tout cela.